Vous écoutez Fréquence Météo, concert en live, enregistrement, interview, chronique et surprise. C'est tout le Festival Météo Mulhouse 2022 qui s'invite dans votre salon. Fréquence Météo, c'est un cluster de radios associatives. Radio Quetch, disponible dans le Sungo et à Alkirch, Radio Panique Bruxelles, Radio Campus Lille, Radio Radio à Toulouse, Le Bloc à Dijon et sur Mulhouse, Radio MNE et Pinode.
Voilà, on est ici dans le Tilvis à Mulhouse. Aujourd'hui, vendredi le 26, on vient justement d'écouter un concert incroyable de un monsieur que je ne connaissais pas, mais qui m'a vraiment impressionné. C'est un violoncelliste, Anil Eraslan. Et j'ai le grand honneur qu'il est maintenant avec nous. Je ne suis pas tout seul ici. J'ai aussi Manu de Radio de Toulouse avec nous pour l'émission de Fréquence Météo. Bonjour Anil, comment tu as vécu ce concert-ci?
Bonjour, merci. J'ai vécu très bien. Il y avait une bonne ambiance, une belle écoute. Et je pense que ça change tout. Ça crée la musique tout seul. Quand il y a une belle écoute, quand on se sent confortable au début, il y a quelque chose qui commence très naturellement. Et je l'ai très bien senti à ce point-là.
Parce qu'on est aussi ici dans un petit café où que normalement il n'y a pas des concerts. Et donc, normalement on peut mettre ici une trentaine de personnes à l'intérieur. Mais c'était vraiment rempli avec la chaleur. Et tout le monde était vraiment fasciné, écoutait le violoncelle. Est-ce que c'est une œuvre écrite ou c'est plutôt quelque chose
qui... C'est improvisé. C'était totalement improvisé. Qui n'était pas du tout structuré avant. Enfin, si, inconsciemment, mais en tout cas pas préparé avec une partition ou autre.
Comme Mathieu disait, Mathieu c'est le programmateur du festival de Météo ici où qu'on est. Comment tu as découvert ou rencontré Mathieu et qu'est-ce qui t'est arrivé au moment qu'il t'invitait de jouer sur son festival?
Ouais. Eh ben, je vis à Strasbourg depuis 21 ans. Avant, j'étais en Turquie et il y a 21 ans, je suis arrivé à Strasbourg pour les études au conservatoire. Et quand j'étais au conservatoire, j'ai participé déjà à plusieurs événements qui étaient organisés par le Jazz d'Or, là où j'ai connu Mathieu quand il était au Festival Jazz d'Or. Et puis, on a fait plusieurs collaborations avec plein d'autres groupes, Jazz d'Or, après Météo, j'avais joué aussi auparavant, en solo aussi, et puis avec d'autres groupes. Et voilà, on a une connaissance comme ça à peu près depuis 10 ans. Et hier, on a joué Imbroglio, la nouvelle création avec un sextet. Et par cette occasion, il m'avait proposé de jouer en solo, que je n'avais pas fait depuis quelques années. À un moment, j'étais bien concentré à faire des solos, et puis j'ai fait une petite pause. Et là, j'étais un peu curieux, un peu stressé aussi, parce que je n'avais pas du tout une idée de comment faire le solo, parce que c'est toujours un moment assez... comment on appelle ça ? Challenging, de faire ça, parce que voilà, je connais des gens qui préparent tout, puis d'autres qui vont dans l'aventure. J'avais essayé des choses avant, mais là, ce qui m'intéressait toujours, de me surprendre aussi et de surtout attacher au lieu, à l'acoustique et aux gens qui sont là, et de faire cette confiance. Et puis, évidemment, c'est préparé avec des années, avec beaucoup de travail, de l'écoute aussi de plusieurs musiques et tout ça. Et puis voilà, finalement, il s'est passé quelque chose et j'ai bien vécu. Ouais, c'était
absolument, tu es vraiment. Je suis pas le seul. Plusieurs personnes étaient un peu comme, qu'est-ce qui se passe ici? C'est super. Parce qu'un violoncelle, c'est pas si évident de jouer en solo. Comment tu as appris de prendre le violoncelle?
J'étais en Turquie. Dans le sud, dans une petite ville, j'écoutais beaucoup de métal quand j'étais ado, comme tout le monde. Et puis je suis allé à Ankara pour étudier le violoncelle au lycée des Beaux-Arts. quand j'avais 15 ans. Et puis bon, c'était les études en musique classique, bien sûr, que je ne connaissais pas du tout à cette époque-là, des musiques contemporaines ou improvisation libre, des choses comme ça. Et puis j'ai fait 5 ans d'études, après je suis venu à Strasbourg. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu connaître, ça m'a ouvert vraiment l'esprit, parce que début des années, dans les années 2000, quand je suis arrivé au conservatoire, c'était un lieu qui était très ouvert à musique nouvelle, expérimentale. Et puis voilà, il y avait des workshops, des festivals comme Musica, Jazz d'Or, Météo à côté. Donc c'est vraiment dans cette région-là où j'ai pu découvrir ces musiques-là. Après, j'ai commencé à voyager, rencontrer des gens à Berlin, à Amsterdam et en Turquie, à Istanbul, où je suis toujours assez actif. Depuis quelques années, c'est plus difficile, hein, comme un peu partout. Mais il y a une belle scène aussi là-bas, où j'essaie de participer le plus souvent. Donc voilà, Violonça, c'était un coup de foudre au début. J'ai juste entendu le son et puis je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire ça.
Mais aussi que quand je pense aux musiques qui sont inspirées par la musique turque, ici, ce n'était pas du tout le cas. J'ai plutôt l'impression que c'est très proche de musique contemporaine, mais improvisé, et je trouvais que ça ajoutait une valeur incroyable.
Oui, c'est en fait, je pense, j'imagine beaucoup d'influences de plusieurs musiques, en tout cas que j'aime écouter, c'est en passant par les musiques ottomanes, turques, musique classique, ou beaucoup de musiques contemporaines de tous les âges, de jazz, free jazz, musique improvisée. En tout cas, j'essaie de jouer en m'imaginant dans un concert en tant qu'auditeur, qu'est-ce que j'écouterais comme musique, qu'est-ce que ça me plaît quand j'écoute des musiques comme ça qui se baladent entre plusieurs influences comme ça. Donc c'est là-dessus que j'ai pas mal exercé, on va dire. Trouver des moments où, évidemment, je suis toujours un grand fan des jazz des années 80, 90, new-yorkais, et qui a toujours cette énergie-là, qui peuvent ramener quelque chose de toujours très frais. Et puis voilà, c'est comme une route avec plein de surprises, quoi. Donc c'est plutôt ça, l'influence de ressortir les influences que j'aime, et de retrouver ça avec tout ça. Parfois il y a des choses qui sortent que j'aime pas aussi, mais ça fait partie de
ça fait partie de jeu, hein. Et c'est justement ça que
on essaye d'assumer le plus possible.
Absolument, parce que si dans le jazz des années 80, il y a très peu de violoncelles qui sont dedans. Comment tu as arrivé de créer l'univers pour le violoncelle?
Le premier que j'ai vu, c'était Vincent Courtois quand j'étais au conservatoire, qui était venu pour un masterclass. Après, encore au conservatoire, il y a eu pas mal de musiciens de Paris comme Joël Léandre, Bruno Chauvillon, ces gens-là. Et quand j'ai vu ça, je ne connaissais pas du tout cet univers avant. Enfin, on était en train de travailler le concerto de Haydn. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, il y a un autre truc qui est possible. Et du coup, j'ai commencé à suivre aussi l'histoire. Y a Abdul Wadud qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines, que j'écoutais beaucoup. Tom Cora, évidemment. Quand j'ai découvert tous ces gens-là, pas personnellement, j'ai malheureusement raté les années, mais voilà, c'est des.
Jamais live.
Non, malheureusement pas, ouais.
J'ai eu la.
Je demande à tout le monde, est-ce que tu as vu déjà en live?
Je l'ai vu quelques fois solo. Impressionnant aussi qu'on voit ses mains. C'était des mains géantes.
Ouais. Je parlais avec Claude Chamitian, on a fait un concert il y a deux jours. On était en bagnole pour aller à Cluny. Et c'est lui qui me racontait, en parlant de ça, à un moment, il avait proposé à Claude de faire un duo. Et c'était juste un mois ou deux mois avant son décès. Donc voilà, j'essaie de récolter des histoires pour compléter un peu, mais sinon j'ai beaucoup écouté les disques de tous ces tous ces gens-là. Après, c'est, bon, le violoncelle, c'est l'instrument. Après, l'approche, c'est plutôt aussi, je pense, des personnalités, quoi. L'instrument devient une sorte de... Après, on est toujours dans le côté geek. On est curieux de voir comment ça se passe, les techniques, tout ça. Mais après, c'est des idées musicales. Et du coup, l'instrument devient complètement transparent, quoi. Mais ouais, sinon, il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé, évidemment, avec cet instrument.
Et comment tu es arrivé de jouer cet instrument-là? Parce que ce n'est pas un instrument qui est très facile. En général, si on est jeune, au moment que j'étais jeune, je ne connaissais pas quelqu'un qui jouait cet instrument-là. Je n'écoutais pas ce type des enregistrements. Et maintenant, je l'adore.
Mm-hmm. Ouais. Comme je disais, j'avais commencé, comme tout le monde, à faire des cours David, de faire des sons horribles pendant quelques mois. Et puis, quand ça, à peu près, après les études classiques et tout ça, c'est parti. J'ai fait le cursus classique au conservatoire. Après, j'ai passé en jazz, musique improvisée. Et puis après, surtout, c'était avec des rencontres, des concerts, des sessions, de jouer à droite, à gauche. Berlin, c'était une étape encore plus nourrissante pour moi. Là-bas, j'ai connu Tristan Hansinger, par exemple, avec qui on a beaucoup joué. On joue de temps en temps encore. Il a déménagé là, aux États-Unis, depuis 2 ans. Mais voilà, à Berlin, la scène est très, très variée. Là, depuis quelques années, ça se mélange aussi pas mal, parce qu'il y avait une époque où c'était très catégorisé aussi dans la musique expérimentale. Mais là, il y a quelque chose qui... À Istanbul, c'est pareil, entre les musiques traditionnelles ottomanes et les compositeurs, compositrices contemporaines, commencent à collaborer. C'est ça, du coup, qui m'intéresse aussi de voir la suite, comment tous ces milieux-là vont faire quelque chose ensemble.
Alors justement, bonjour. Bon, pareil, j'ai vraiment adoré ce solo. C'est plein de fausses pistes. Tu fais du violoncelle préparé, mais il n'y a pas de préparation. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas de pince à linge, il n'y a rien. Et pourtant, ça sonne vraiment comme du violoncelle préparé. Et puis, par moments, tu fais du métal. J'ai vraiment trouvé, mais sans amplification. Et c'est très fort. Je voulais revenir sur un truc qui a écrit dans le petit fascicule de Météo. Tu prépares un long métrage justement sur cette scène expérimentale contemporaine de Turquie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ou nous citer des artistes à découvrir?
Alors, comme je disais, je participe, je joue avec beaucoup de musiciens à Istanbul depuis 10-12 ans. Maintenant c'est un peu différent, ça bouge un peu comme partout, et puis à cause de plein de problèmes politiques et autres, c'est en train de changer, mais je trouve qu'il y a toujours une scène qui est très active et très intéressante, et aussi pareil avec ce lien entre les musiciens traditionnels, entre guillemets, en tout cas qui pratiquent la musique classique turque, Et les gens qui s'intéressent à la musique expérimentale se trouvent des zones communes à partager. Et j'avais cette idée-là depuis quelques années, parce que je pratique aussi le film, la vidéo. J'avais vu quelques documentaires de musique qui m'avaient beaucoup plu, et j'étais, à vrai dire, jaloux. J'ai voulu faire la même chose à Istanbul. Et là, je peux citer le nom de film qui m'a fait vraiment halluciner. C'est We Don't Care About Music Anyways, qui est un documentaire de Cédric Dupire et Gaspard Könitz, je crois, deux réalisateurs en France. Il y en a un qui vit au Japon. Donc, ils avaient fait un documentaire sur la musique Japanoise. Je travaille là-dessus depuis maintenant 3 ans. J'avais fait une résidence en Turquie pour démarrer ce projet-là. Donc du coup, c'est des musiciens que je connais déjà. Mais après, pour faire un film, j'avais aucune idée. En tout cas, professionnellement, Donc du coup, c'est toute une étape de passer par les festivals, les workshops, le pitch, de rencontrer des producteurs, etc. C'est très compliqué. Au final, je pense que ça sera assez modeste. Donc on est descendu dans la réalité où c'est, bon, le sujet n'est pas facile pour intéresser des gens du milieu de cinéma. Mais en tout cas, ouais, ce qui m'intéresse, de faire un film qui montre, pas un documentaire dans le sens où on va expliquer ce qui se passe à Istanbul, pas beaucoup de têtes qui parlent et des reportages, mais plutôt une sorte de film sonore où on va voir les performances dans les lieux atypiques. En fait, au début, l'idée c'était de mettre de faire le film en passant par les rêves de chaque musicien. C'était l'idée, parce que j'ai un peu travailler ce thème de rêve qui était pour moi très lié à l'improvisation. Là, c'est complètement improvisé et on peut dire que c'est des courts-métrages aussi, il y a un côté visuel. Et du coup, la façon de rentrer dans cette histoire, la scène istanbuliote, de passer par les rêves. Du coup, j'avais demandé à chaque musicien de m'envoyer les rêves qui parlent d'Istanbul ou une expérience sonore à Istanbul. Donc, c'était des rêves sélectionnés. Maintenant, ça va peut-être un peu changé. En tout cas, c'est dans cette direction-là. C'est aussi dans les films que j'aime. C'est toujours le thème de rêve qui est passionnant, que je trouve qui est très proche de l'improvisation. Donc, il y a 11 musiciens avec lesquels j'ai fait un album aussi qui est sorti normalement à Berlin, mais officiellement dans un mois. Donc, il y a le projet de film. À part ça, dans le film, c'est complètement improvisé, mais j'ai aussi composé chaque rêve de chaque musicien et on a fait un album. Et là, j'ai pris un peu mon plaisir juste à recomposer tous ces rêves-là. Et ça a été pendant au début de pandémie, donc c'était pas évident de se rassembler à Istanbul. Donc il y a eu plusieurs enregistrements différents de la maison, des studios différents et tout ça. Après, ça m'a permis de retravailler la musique à partir des enregistrements, de faire une sorte de collage, de recomposer. J'ai fait ça pendant un an et demi, juste pour la recomposition. Et là, je suis content. Là, ça sort d'un label à Berlin qui s'appelle Rumi Sounds. Ils ont produit des très beaux vinyles avec un très beau visuel que Joël Grip a fait. Et du coup, le film, c'est encore en préparation. Et je pense qu'en mai, j'ai fait beaucoup de matériel pour faire le trailer, teaser, etc. pour déjà travailler, pour les présenter dans quelques endroits. Donc c'est long. C'est pas du tout comme en musique. Au début, c'était très difficile parce qu'en musique, ça se développe aussi au fil des années, mais si on veut faire un album, ça se prépare différemment. C'est comme ce concert-là, j'ai pas préparé une partition, mais pour faire un film, ça dépend de plusieurs choses. Du coup, j'essaie de garder la patience, mais en tout cas, ça me passionne de retravailler sur les images et le son de cette scène-là, avant que ça disparaisse, j'espère pas, mais là, à ce moment, c'est pas évident. Les lieux qui ferment, après qui ouvrent aussi, c'est un peu comme partout, quoi.
Et ça devient de plus en plus politique de faire de la musique, de toute façon. Est-ce qu'il y a un artiste ou deux, moi je connais absolument pas cette scène-là, est-ce que tu peux me présenter un artiste ou deux de cette scène ?
Oui, bien sûr. Il y a Alper Maral qui est un compositeur qui était très actif dans la scène de musique contemporaine en Allemagne et en France aussi. Et il me semble qu'ils avaient fait une collaboration aussi avec Akroshnot, l'ensemble de musique contemporaine à Strasbourg, avec Armand Angster. Donc compositeur, tromboniste et multi-instrumentiste, on va dire. Il y a Tolga Tuzun aussi, qui est compositeur, qui enseigne à Bilgi, Université de Bilgi. Il y a Merve Salgar qui est là, qui est ma femme depuis un mois, qui fait du tambour. Elle a un groupe, justement, un trio qui se constitue de tambour, kemençe. Kemençe istanbuliote et violoncelle. Donc ce trio-là joue des musiques turques, enfin à la base. Après, ils se sont dirigés aussi vers les musiques expérimentales. Il y a un percussionniste qui fait du darbuka, qui s'appelle Volkan Ergen. Il y a Şevket Akıncı, un guitariste. Il y a Zeynep Kaya, une chanteuse, une amie qui habite à Strasbourg, mais aussi istanbuliote. Il y a Sumru Ağaryürüyen et Orçun Baştürk, Eda Er. Voilà, j'essaie de ne pas oublier les noms. Mais voilà, c'est assez varié dans l'instrumentation. Il y a des synthés, de darbuka, du chant, de violoncelles, trombone, piano, des électroniques. Voilà, une soupe bien avec beaucoup d'ingrédients, une soupe musicale.
Eh ben, ça va nous faire beaucoup de choses à aller creuser, à découvrir. Merci beaucoup. Et refaire un focus sur toi, parce que moi, je t'ai découvert hier avec un broglio, j'ai adoré, le solo, j'ai adoré. Est-ce que tu peux me parler d'autres formations que tu as et dont tu aurais envie de parler à la radio ?
D'autres formations, oui. On a un trio de Accord qui est installé à Berlin avec Antonio Borghini et Marie Takahashi. C'est avec contrebasse, alto et violoncelle qui s'appelle Éponge. Et là, on vient de sortir aussi un album digital pour l'instant qui était présenté aussi par le collectif Umlaut. Parce que à Berlin, il y a Autopsy Paul comme un café-concert qui était initié par Joël Grip et Antonio Borghini. Donc je suis aussi pas mal dans l'entourage de ces gens-là. On a fait déjà plusieurs concerts, créations autour de ce lieu-là. En fait, ce lieu, c'est une sorte de lieu de workshop où il y a des concerts tous les soirs, 5 jours de suite. Un groupe peut jouer comme à l'époque. Et malheureusement, ça va fermer dans quelques semaines. Donc du coup la dernière semaine ça sera une collaboration avec ces gens là donc Éponge fait partie d'un plus grand ensemble qui s'appelle Club Dembo qui constitue de 10 musiciens dont il y a Michael Griner, Axel Donner, il y avait Tristan Hunsinger, maintenant en alternance il y a Pierre Boel, Mia Dibalk, Marie Takahashi. Donc avec Club Tembo, c'est assez intéressant parce que c'est de l'improvisation et une sorte de performance qui est assez large, on ne va pas dire théâtrale, parce qu'il n'y a pas d'ambition de théâtre, ça n'a rien à voir, mais tout est permis avec les mots, les gestuels, on peut trouver des objets. Donc l'improvisation prend une largeur, ça sort de ce côté seulement musical, mais ça élargit dans un espace où on peut utiliser l'espace de façon plus lynchien, on va dire. Il y a ça. Là, j'ai un blocage, il y a plein de trucs, mais dans ce moment-là, j'oublie tout. J'essaie de m'en souvenir. Il y a le trio H, on a fait un concert l'année dernière, Festival Météo aussi, avec Grégory D'Argent, Oud, plein d'effets. Moi aussi avec des pédales et Wassim Halal qui fait la percussion. Après, je viens de faire j'ai eu la chance de faire un duo avec Iva Bitova. On a enregistré un album duo il y a 2 mois qui va sortir aussi dans quelques semaines. Qui a choisi des chansons qu'elle entendait de son grand-père à l'époque. Donc on les a préparées, on a beaucoup improvisé et joué autour de ces chants traditionnels. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'il y a d'autres trucs, mais là je prépare un autre album avec un joueur de bardama, Taner Akyol, qui fait du saz à Berlin. On vient d'enregistrer aussi un album complètement improvisé, mais qui contient évidemment beaucoup de motifs de musique traditionnelle, mais il n'y avait aucune ambition de faire de l'impro libre ou de traditionnel, mais on a une collaboration qui dure depuis très longtemps et on rêvait de rentrer et commencer et arrêter l'enregistrement. On n'avait jamais fait. Et là, on a trouvé le temps et la bouteille de raki qui accompagnait un tout petit peu. Et là, on est très content aussi de... Ça rassemble un peu... ce type de recherche où où les noms de style ça disparaît. Après, ça devient une musique assez difficile à nommer, mais voilà, y a ce duo-là. Et puis il y a Matthias Mainz, un pianiste de Cologne. Avec lui, on fait un trio aussi, où il y a Grégory D'Argent encore, avec Oud. Et là, on travaille sur un répertoire avec des compositeurs qui vont travailler avec nous, écrire pour nous. On va faire des échanges comme ça. Et voilà, pour l'instant. Ça.
C'est déjà très riche. Et le solo que tu viens de jouer, tu m'as dit qu'il existait un album solo, pas tout à fait ce répertoire-là, mais en tout cas toi en solo, où est-ce qu'on peut l'entendre et où est-ce qu'on peut l'acheter éventuellement ?
Je peux vous en donner un ici. Après, ça n'a pas été distribué en France, donc je ramène au concert et je dépose sur une table. Mais sinon, sur Internet, peut-être, ouais, mais il faut commander depuis la Turquie. Ça s'appelle Absorb et le label s'appelle AK Music. Donc AK Music. Ça date d'il y a 6 ans. Voilà, il y a cet album-là qui existe.
Merci beaucoup pour la musique, pour la rencontre et pour tous les noms que tu nous as appris, et on va creuser tout ça. Merci. Avec Merci plaisir. Pour tout ce partage.
Vous écoutez Fréquence Météo, concert en live, enregistrement, interview, chronique et surprise. C'est tout le Festival Météo Mulhouse 2022 qui s'invite dans votre salon. Fréquence Météo, c'est un cluster de radios associatives. Radio Quetch, disponible dans le Sungo et à Alkirch, Radio Panique Bruxelles, Radio Campus Lille, Radio Radio à Toulouse, Le Bloc à Dijon, et sur Mulhouse, Radio MNE et Pinode.
Et tout de suite, je suis ravi d'accueillir quelqu'un que je connais très bien depuis pas mal de temps, depuis assez longtemps désormais. Et on a pas mal fait la fête pour des bonnes raisons ces dernières semaines. C'était bien chouette. Et je suis ravi aujourd'hui de l'accueillir et de vous le présenter. C'est Annie Leraslan au violoncelle. Annie Leraslan, très bon concert.
Thank you. Thank you. plaisir de jouer. Merci au café, merci à Mathieu, à toute l'équipe de festival. Je vous souhaite un bon festival.
Vous écoutez Fréquence Météo, concert en live, enregistrement, interview, chronique et surprise. C'est tout le Festival Météo Mulhouse 2022 qui s'invite dans votre salon. Fréquence Météo, c'est un cluster de radios associatives. Radio Quetch, disponible dans le Sungo et à Alkirch, Radio Panique Bruxelles, Radio Campus Lille, Radio Radio à Toulouse, Le Bloc à Dijon et sur Mulhouse, Radio MNE et Pinode.